Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. L'appel à la solidarité après les séismes en Turquie et en Syrie, il y a au moins 5000 morts et des dizaines de milliers de blessés et sinistrés dans les deux pays. Dans votre journal, Driss Etazaoui, président de l'Association des élus de France, vice-président de l'agglomération Évreux-Portes de Normandie, vice-président de l'association Maires, Villes et Banlieues de France. Plusieurs élus de gauche évoquent la situation alarmante des familles sans abri. Ils ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Parmi eux, le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc, que nous écouterons. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Lionel Royer-Perrault, député Renaissance des Bouches-du-Rhône. Il défend cette réforme, vous l'entendrez. Le ministère des Affaires culturelles tunisien présente ses condoléances à toute la famille créative et culturelle après la mort de l'acteur Mohamed Drif. Il était âgé de 72 ans. Les victimes se comptent par milliers après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Il y a au moins 5000 morts. La secousse a également été ressentie au Liban et à Chypre. De nombreux pays ont proposé leur aide. Suite à ce tremblement de terre, Driss Etazaoui, président de l'Association des élus de France, vice-président de l'agglomération Évreux-Portes de Normandie, vice-président de l'Association Maires, Villes et Banlieues de France, estime que les élus et collectivités locales devront faire preuve de solidarité. Driss Etazaoui.
Mon premier message, c'est d'abord une pensée vers naturellement les familles qui sont aujourd'hui endeuillées. Je veux ici, et vous m'en donnez l'occasion, je vous en remercie, exprimer mon émotion, mon affection, mais aussi ma solidarité envers le peuple turc, mais aussi envers le peuple syrien. C'est une véritable tragédie qui a touché ces deux pays. C'est du rarement vu ou même du jamais vu dans cette région, selon le dire des observateurs. C'est donc avec une émotion toute particulière que j'adresse naturellement, je le disais, aux familles endeuillées, que je m'exprime ici au nom des élus de France, et dire à quel point est-ce que dès lors qu'un pays est touché de manière aussi brutale, de manière aussi violente, eh bien quelque part, ce sont aussi les nations voisines et bien plus loin encore qui sont aussi touchées et endeuillées par ce drame. La France a fait le choix d'envoyer très rapidement, et j'en remercie le président de la République, d'envoyer très rapidement 139 secouristes au chevet des Turcs et au chevet des Syriens. Probablement que cela ne suffira pas, mais il y a une mobilisation d'un grand nombre de pays du monde entier, et cela est à saluer. Vous voyez, c'est la preuve que finalement notre planète, notre monde, eh bien, est encore teinté d'humanité, et que les uns et les autres, les grands de ce monde, sont en capacité finalement d'aller au chevet des plus faibles dès lors qu'ils rencontrent une difficulté aussi importante, aussi violente que celle que nous venons de connaître. Donc la France, 139 secouristes, je pense que cela effectivement ne suffira pas. Le temps aujourd'hui est encore au décompte, aux recherches. Naturellement, viendra le temps du soutien et de l'accompagnement. Et il faudra que nous autres aussi, élus locaux, dans nos collectivités, de la même manière que nous le faisons pour l'Ukraine, eh bien, nous puissions également, dans un élan de générosité, intervenir auprès des familles endeuillées, auprès des familles dont les proches sont blessés et victimes de ce séisme.
Vous présidez l'Association des élus de France. Cette mobilisation des élus locaux, comment pourra-t-elle se traduire?
Nous sommes encore en période hivernale. Hein. Le séisme a eu lieu au sud de la Turquie, au nord de la Syrie. Il a été ressenti jusqu'au Liban. Donc c'est dire finalement l'horreur et le drame qui a touché cette partie du monde. Très rapidement, il va se poser la question des hébergements pour celles et ceux qui sont à l'extérieur, qui se retrouvent à la suite de ce drame sans toit. Il va également se poser la question des denrées alimentaires, il va également se poser la question de comment je m'habille demain. Et donc c'est toutes ces questions-là qui doivent nous occuper et qui doivent nous amener à réfléchir les uns et les autres à comment est-ce qu'on peut soutenir et le peuple turc et le peuple syrien, comment nous pouvons les uns et les autres, avec les moyens qui sont les nôtres, attendant d'abord de voir ce que fait le gouvernement français, ce que fait le président et le gouvernement, et ensuite, effectivement, si nous pensons que cela n'est pas assez, ou cela ne suffit pas, ou si la Turquie et la Syrie l'expriment, eh bien, comment les collectivités territoriales aussi peuvent venir en aide à ces deux peuples.
Lors de telles catastrophes, mais aussi lorsque des populations ont besoin d'être accueillies, eh bien, cela passe souvent par les collectivités locales en France.
Écoutez, ça a été le cas pour l'Ukraine. Et c'est encore le cas d'ailleurs pour l'Ukraine, où nous accueillons des réfugiés ukrainiens. Nous sommes là sur des réfugiés à la suite d'un tremblement de terre, à la suite d'un drame naturel. Le pays, d'abord, que ce soit la Turquie ou la Syrie, devront prendre des mesures nécessaires, effectivement, pour essayer de reloger les victimes du sinistre. Et ensuite, il appartiendra, une fois de plus, à la demande des pays, et seulement à la demande des pays, eh bien, que les pays voisins, et même un peu au-delà, eh bien, prennent leur part si d'aventure, il est une nécessité que nous prenions notre part.
À l'heure où de nombreuses personnes, de nombreuses personnalités déplorent une forme de repli, notamment identitaire, eh bien, lors de ce type de tragédie, vous soulignez la mise en lumière d'une véritable générosité.
Oui, je pense qu'il est encore possible et qu'il est permis de croire en l'humanité qui réside en chacun d'entre nous, et notamment cette humanité qui habite les puissants de ce monde. Et je veux croire, quand je vois la position de la Russie, la position de l'Ukraine, la position des Chinois, vous voyez, tous ces peuples qui peuvent être ennemis hier, eh bien, lier leurs forces, lier leurs moyens humains, matériels et financiers pour venir en aide à un pays tiers, à un pays qui est en difficulté, qui en a la nécessité. Je trouve qu'en cela, eh bien, il nous est encore permis, je le disais tout à l'heure, d'espérer en l'humanité, indépendamment des trajectoires, indépendamment des histoires, des cultures et des religions. Face à un drame, nous sommes encore en capacité de nous unir pour venir en aide.
Driss Etazaoui, président de l'Association des élus de France, vice-président de l'agglomération Évreux-Portes de Normandie, vice-président de l'Association Maires, villes et banlieues de France. Et suite à ces séismes, le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national de 7 jours en Turquie. Quelque 23 millions de personnes pourraient être touchées par ces tremblements de terre. C'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé, qui promet son soutien sur le long terme après l'envoi d'aide d'urgence. L'OMS fait état de 23 millions de personnes potentiellement exposés, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. La militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui, arrêtée en Tunisie et en passe d'être expulsée vers l'Algérie, se trouve désormais sous la protection des autorités françaises. Une annonce de son avocat français. Arrivée en Tunisie vendredi dernier, elle avait été interpellée alors qu'elle cherchait à embarquer avec son passeport français pour un vol pour la France. Cela avant d'être placée en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge hier, qui avait décidé sa remise en liberté en ajournant son dossier au 23 février. Le manque d'emploi est, selon l'ONU, la principale source d'extrémisme violent en Afrique subsaharienne. La conclusion d'une enquête menée auprès de 2200 hommes et femmes. Enquête menée par le programme des Nations Unies pour le développement. Une vingtaine de maires de gauche interpellent l'État concernant le mal-logement des familles. Ils ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils évoquent la situation alarmante des familles sans abri. Parmi ces élus, le maire PCF de Gennevilliers, Patrice Leclerc. Entretien.
Nous demandons au gouvernement de prendre en compte le fait que le système de logement et de réponse d'urgence aux personnes en difficulté est complètement bloqué. Il n'y a plus de priorité possible, tellement c'est la pénurie de logements sociaux et de lieux d'accueil d'urgence. Et donc on est dans l'incapacité de reloger rapidement une femme battue, de pouvoir mettre à l'abri des personnes à la rue. Et on se retrouve dans un système presque de concurrence entre les gens les plus en difficulté. Or, ce n'était pas la proposition que faisait Macron pendant un moment, qui était plus zéro SDF dans les rues. Aujourd'hui, on a au contraire de plus en plus de SDF dans les rues et de plus en plus de personnes en très grande difficulté. Il faut donc prendre des mesures d'urgence pour régler cette situation.
De plus en plus d'enfants, notamment, et de familles qui aujourd'hui sont sans solution. C'est ce que tout récemment soulignait le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement.
Rapport après rapport, la Fondation Abbé Pierre montre aucune amélioration. Pour moi, la raison en est simple, c'est si les maires et l'État ne travaillent pas à la construction de logements sociaux, notamment dans la métropole de Grand Paris, c'est impossible de répondre à la demande de logement, à la demande normale de logement de familles qui ont besoin de s'agrandir, mais aussi à la demande de situations d'urgence. Et on se retrouve dans une situation tellement bloquée qu'à la fois celles et ceux qui veulent une pièce de plus ne peuvent pas avoir ce logement et que celles et ceux qui sont à la rue ne peuvent pas avoir de logement. Donc il faut vraiment construire du logement social et peut-être réadapter, je pense, dans Paris même, donner plus de moyens pour que tous ces logements vides soient redonnés à l'habitation.
Vous évoquiez le plan pauvreté présenté lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, sur ces questions, globalement, est-ce que vous pouvez nous faire part de vos attentes, de vos souhaits, nous dire ce qui devrait être mis en œuvre ?
D'abord, Emmanuel Macron a rendu beaucoup plus de services aux milliardaires parce qu'eux ont progressé dans leurs revenus, ce qui n'est pas le cas des gens les plus en difficulté, parce qu'eux ont connu de plus en plus de difficultés. Donc d'un côté c'est positif, de l'autre côté c'est négatif. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est un, qu'il mette des moyens pour construire des logements sociaux, deux, qu'il y ait un plan d'urgence pour la prise en charge de tous les enfants et leurs familles sans solution, pour qu'aucun enfant ne soit inquiété de savoir s'il dormira à la rue ou pas, et donc et qu'il n'y ait plus aussi d'enfants en situation d'urgence qui soient privés d'éducation. Permettre la régularisation des personnes qui sont installées depuis longtemps sur le territoire, c'est-à-dire que, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, pendant un moment, il y avait 18 000 dossiers en retard sur les demandes de papier, alors qu'ils en ont rattrapé beaucoup, mais il reste encore du retard. Ouvrir aussi des états généraux de l'aide alimentaire pour apporter des soutiens. Par exemple, samedi prochain, nous allons encore distribuer des paniers repas à la population, plus de 1 500 que l'on nous sommes obligés de faire et que nous faisons régulièrement, ce qui est une situation totalement nouvelle à Gennevilliers. Jusqu'ici, il y avait les associations caritatives comme le Secours Populaire et la Croix-Rouge et le Restaurant du Cœur suffisaient, ou en tout cas apportaient beaucoup. Maintenant, il faut que la ville apporte en plus des distributions massives pour répondre aux besoins alimentaires.
Vous constatez aujourd'hui cette accentuation de la précarité, vous, maire de Gennevilliers?
Ben oui, la précarité malheureusement augmente de plus en plus avec des gens, des personnes, des familles, avec des enfants ou sans enfants, en très grande difficulté. Il y a vraiment une situation d'urgence à prendre en compte et je crains que la réforme des retraites nous fasse des vieux pauvres plutôt que des personnes qui pourront se déployer d'une manière bénévole pour aider les autres, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui.
Le fait que ce soit des maires de grandes villes, comme le maire de Lyon, la maire de Paris, la maire de Lille, vous, maire de Gennevilliers, qui tire ce signal d'alarme, c'est un élément important également.
C'est plutôt bien que des maires de villes de toute taille, voire même de métropole, crient leur désespoir aussi, parce que c'est un désespoir quand on est maire que de rencontrer des personnes que l'on n'arrive plus à aider et que notre rôle de maire, c'est d'arriver à aider les gens et que si on n'est pas aidé et si l'État n'agit pas autrement que ce qu'il fait aujourd'hui pour nous permettre à nous d'agir et de trouver des solutions aux personnes à la rue ou aux personnes qui sont mal nourries, on se retrouve aussi en grande difficulté. Et donc si ces maires réagissent avec force, c'est parce que l'impasse est vraiment déjà là. C'est-à-dire que c'est pas un mur qui avance, on est déjà dans le mur.
Et justement, vous, en tant que maire, comment pouvez-vous agir face à ce type de situation ?
Déjà, nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous construisons du logement social. Je regrette que la région et le département refusent de nous aider sous prétexte qu'on ait trop de logements sociaux. Nous organisons des distributions alimentaires. Nous avons mis en place un système de critères à points pour les attributions de logements. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les attributions de logements avec des critères à points, ça ne fonctionne plus au bout d'un moment parce que les urgences se concurrencent les unes aux autres et donc plus personne ne se trouve prioritaire. Donc il faut vraiment augmenter le nombre de logements. Et puis, par exemple, nous venons de délivrer un permis de construire pour faire un foyer pour des femmes battues, par exemple. Donc c'est de prendre nos responsabilités, c'est d'accepter d'avoir des lieux d'hébergement, c'est d'accepter d'avoir du logement social. Il faudrait que tous les maires le fassent et il faudrait que l'État l'impose aussi.
Le maire PCF de Gennevilliers, Patrice Leclerc, face au froid, des places d'hébergement d'urgence supplémentaires sont mises à disposition à Nantes et Saint-Nazaire. La préfecture de Loire-Atlantique a décidé de renforcer son plan d'action destiné à assurer la mise à l'abri des personnes à la rue. Cela se traduit aussi par un renforcement des maraudes assurées par la protection civile et le SAMU social. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Lionel Royer-Perrault, député Renaissance des Bouches-du-Rhône, ancien maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille. En cette journée de grève et de mobilisation des syndicats, il défend la réforme des retraites examinée depuis hier à l'Assemblée nationale. Extrait de cette émission.
Je dirais que d'une façon générale, dire que il faut travailler plus, ça ne suscite jamais un enthousiasme débordant. Voilà, et donc forcément, et moi le premier d'ailleurs, puisque je suis concerné par la réforme, devoir imaginer de devoir travailler 2 ans de plus est quelque chose que par nature on refuse. Une fois qu'on se l'est dit cela, je rencontre beaucoup de gens aussi qui sont conscients de la situation dans laquelle se trouve notre système par répartition, par simple fait que aujourd'hui les enjeux démographiques font que il y a un déséquilibre financier qu'il faut combler, et donc d'une façon générale, je trouve que il y a une forme de compréhension, même si beaucoup de questions sur la déclinaison de cette réforme vis-à-vis de leur situation personnelle, des questions quelquefois sur des situations très précises en lien avec la pénibilité, en lien avec les carrières hachées. Voilà, mais je dirais quand même que l'appréciation ou la prise de conscience de la nécessité de réformer est quand même là. Voilà.
Alors, à écouter Elisabeth Borne, il n'y a pas d'alternative à cette mesure d'âge. Pourtant, l'opposition vous a soumis d'autres projets de financement des retraites. Est-ce que vous étudierez ces propositions à l'Assemblée dans les 20 jours qui viennent ?
L'opposition est surtout dans une logique de posture, de surenchère, et je trouve d'ailleurs que ça finit par nuire à la qualité du débat parlementaire. Je rappelle que le système par répartition, son mode de fonctionnement est très simple. Ce sont les cotisants actuels qui financent pour les retraités actuels. Il y a 50 ans, nous avions 3 cotisants pour payer la retraite d'une personne. Aujourd'hui, nous avons 1,7 cotisants et dans quelques années, nous serons plus qu'à 1,5 cotisants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons divisé par 2 le nombre de cotisants. Donc ça veut dire que nous avons moins de recettes. Et à côté de ça, nous avons des personnes qui partent à la retraite en nombre, c'est la fameuse génération dite du baby boom, celle qui a été conçue après la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, les personnes âgées d'aujourd'hui vivent plus longtemps, ce dont il faut se réjouir, et donc nous devons payer plus longtemps les retraites. Et donc vous avez des dépenses qui sont plus nombreuses. Donc d'un côté, vous avez des recettes moins importantes, de l'autre côté, vous avez des dépenses plus importantes. Eh bien, ça signifie très simplement que vous avez un déficit. Ça, c'est comme votre budget. Quand vous avez moins de recettes et plus de dépenses, vous avez un creux dans votre budget. Mais là, c'est la même chose. Et donc, le système de répartition, c'est que ce sont les cotisants qui, donc les actifs, qui paient pour les retraités. À partir du moment où vous décidez de taxer telle ou telle catégorie de la population pour contribuer au financement des retraites, vous quittez l'esprit de la retraite par répartition et, en quelque sorte, vous demandez de financer les retraites par l'impôt. Mais dans ces cas-là, il faut se reposer la question de la notion de retraite par répartition.
Lionel Royer-Perrot, député Renaissance des Bouches-du-Rhône, il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. L'acteur tunisien Mohamed Edrif est mort. Il était âgé de 72 ans. Il avait reçu des prix à l'étranger, notamment à Cannes, pour le rôle du père dans Mon cher enfant. Mohamed Edrif s'était d'abord fait connaître en Tunisie à la télévision dans les années 80. Le ministère des Affaires culturelles tunisien a présenté ses condoléances à ses proches et à toute la famille créative et culturelle. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 18, à midi 30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.